Bonjour chers auditeurs, je vous salue pour ce dernier lever de rideau pour un spectateur. Et oui, toutes les bonnes choses ont une fin. Et ce sont des adieux dans le sang. Aujourd'hui, nous parlons de la pièce Massacre. Alors je vous disais, on parle aujourd'hui de Massacre, une pièce donnée en cantor au milieu du mois de mai, je n'ai plus les dates en tête, excusez-moi, et qui parle d'un événement historique bien connu dans l'histoire de France, qui est celui de la Saint-Barthélemy. La pièce est adaptée d'une pièce originale en anglais de Marlowe. Aujourd'hui, pour en parler, je reçois une de mes chroniqueuses, Caroline. Bonjour Caroline.
Bonjour.
Bonjour.
Elle est schizophrène, mais ça on le savait déjà. Et comme c'est la dernière émission, j'ai décidé de faire n'importe quoi et de varier un peu le format. Et donc aujourd'hui, je reçois en même temps. Donc vous aurez à la fois la chronique et l'entretien, les deux metteuses en scène de la pièce. Je les salue. Bonjour Pauline.
Bonjour.
Et bonjour Mélissa.
Bonjour.
Alors comme on va quand même faire les choses bien et que je suis la caution historique de cette émission, n'est-ce pas ? Vive les L3 d'histoire. Je suis historienne mais pas extrémiste. Je vous livre les événements tels qu'ils se passent dans la pièce et pas dans l'histoire. On commence sur le mariage de Margot, catholique, avec Navarre, protestant. Et pourtant, dans l'ombre du roi de France Charles IX, Catherine de Médicis, la mère, Anjou, le frère qui se verrait bien roi à la place du roi, et Guise, le cousin, que du beau monde donc, orchestre le massacre des protestants de Paris lors de la nuit de la Saint-Barthélemy. À partir de là, les rouages de la mort sont en place, Charles IX se meurt, Anjou lui succède, mais son amant préféré est tué par Guise, alors Guise est assassiné, Henri III, Anjou, est assassiné. Il ne reste plus que Navarre le protestant pour être roi de France, après s'être fait baptiser. Car Paris, on le massacre tant, Paris vaut bien une messe. Pour en parler, donc je vous disais, nous écoutons ce qu'a à nous dire Caroline.
Commencez au début. Au commencement était la table vide du banquet, sur la scène dénudée. Puis les hommes et femmes empressés apportèrent des plats invisibles. Après le mariage, après la messe, la lumière scinta de sang et le premier corps tomba. Et les poissons se mirent à festoyer. Non, au début de la vision, pas au début du monde. Ben, au commencement, on était à table vide du banquet, sur la scène dénudée, puis les hommes et les femmes empressés apportèrent. Je répète tout ? Non, non, cela ira. Parlez-moi des femmes. Elle était une et triple à la fois, sous ses voiles noires, pieds blancs. Mère, belle-mère et épouse. Et puis l'épouse s'est évaporée, la belle-mère a cassé sa pipe avec des baskets fluo, ne laissant que la mère. Castratrice, bien entendu. Bel exemple d'Oedipe. Poursuivez. D'ailleurs, si vous y réfléchissez bien, il y avait aussi trois Henri, Anjou, Guise et Navarre, à tenter d'enlever la pile des couronnes enchevêtrées comme des épines sur la pauvre tête du roi Charles. Oui, nous avons déjà abordé les symboles religieux lors de la séance précédente. Qu'est-ce que cela vous évoque ? Assez perturbant, docteur. Ces hommes qui changent d'identité en gardant un même visage et qui partagent un même nom tout en ayant un visage différent. La foule, l'individu. Qu'est-ce sinon une illusion ? La lumière d'un phare attirant les papillons fébriles de notre jeunesse. J'ai plus d'appétit qu'un barracuda. Quoi ? Quoi, quoi ? Parlez-moi des cadavres. Ils étaient partout, jetés dans les airs entre les éclairs et de lumière vacillante, amoncelés, déchiquetés, volants, les coutures ouvertes. Les entrailles, vous voulez dire ? Pardon ? Lapsus, couture pour entrailles. Non, non, docteur, les coutures étaient les entrailles. Intéressant ! Vous pensez donc qu'il n'y a pas de différence entre le corps et le vêtement ? Est-ce que cela vous effrayait ? C'est-à-dire que oui, mais non. En fait, cela ressemblait plus à mon appartement avant un jour de lessive. Ces montagnes de linge sale jetées un peu partout. Et c'était drôle ! Et on partait massacrer les protestants comme on fait exploser la tête des aliens. Mais lorsqu'ils l'ont tué... Définitivement pas maniaque de la propreté. Qui il ? Mais celui qui... Ah, je ne sais plus. Un homme avec des yeux. Ils ont déchiré sa veste comme on écartèle des membres sur la roue, et alors ? Mais il y avait l'autre aussi ! Le roi qui n'était plus roi, puisqu'il était déjà mort, changé de religion et déshabillé sur scène. La violence, docteur, la violence ! Plus terrible à regarder que tous ces monceaux de cadavres et des assassinats filmés. Corps supplicié, nu, les bras en croix. Délire messianique. Et qui l'a tué ? Lui, le petit homme, haut comme trois pommes, à cracher par terre, mais un charisme. Docteur, je suis inquiète. Déjà dans L'Homme qui rit, j'avais adoré Barkilphedro, le manipulateur sournois de l'ombre, et là, mon cœur battait pour ce meurtrier de masse sans morale ni limite. Cela veut dire que je suis sociopathe ? Non, simplement que vous avez des goûts de merde en matière d'homme. Sinon, ça vous arrive souvent de faire exploser la tête des aliens ? Vous voulez un pamphlet sur l'influence des jeux vidéo sur la violence ? Et puisque c'était pour rire, docteur, puisqu'ils riaient eux aussi. Et puis ce n'était pas réel, puisque les morts se relevaient, puisque les personnages existaient dans les petits écrans, et dans les grands écrans, et en parallèle, et en décalé. Mon Dieu, vous avez raison, je ne sais plus. Le temps était sorti de ses gonds, à la fois moderne et désuet et historique, et puis la temporalité des guerres de religion. Vous savez qu'ils écoutaient une radio transistor ? Mais les images sur l'écran de télé ressemblaient à des tableaux de maîtres flamands. hallucinations visuelles et auditives. Vous avez dit quelque chose ? Caroline, nous en avons déjà parlé. Les voix sont dans votre tête. Les images sont aussi dans votre tête. Quelle est la différence entre la réalité et l'illusion ? Dans la réalité, les murs sont blancs et carrelés et la nourriture est dégueulasse. Voilà. Et les gens ne vivent pas dans les écrans. Vous le comprenez, cela ? Mais ils saluaient ! À la fin, docteur ! Ils saluaient avec les acteurs, les petites mains, les créateurs de vidéos et même qui faisaient la roue. Là, là, là. Tout va bien. Vous allez prendre les gentilles petites pilules roses et tous les méchants cauchemars vont s'en aller. Non, non, vous ne comprenez pas, docteur. Ce n'était pas des cauchemars. Même si ça aurait pu en être, ça aurait dû en être. Le massacre, mais pour de rire, et sans une goutte de sang. J'aurais bien aimé du sang, quand même. Psychopathe. Tout va bien, calmez-vous, prenez vos pilules. Non, je ne veux pas de pilules. Je veux retourner dans la salle de spectacle avec les hommes aux différents visages et massacrer des piles de lessive sale en dansant avec des baskets fluo. Lâchez-moi, lâchez-moi. Non, vous voyez, ça va vraiment en s'aggravant. Si on enlève la camisole, elle s'attaque elle-même, elle essaie de s'en prendre à ce docteur qui la tourmente. Je pense qu'il faut la remettre sous sédatif. Le petit bonhomme en mousse, il court, il rate le plongeoir. Il est mort ! Il faut l'empailler. Je ne suis pas folle, vous savez. Bonsoir.
Merci Caroline. Alors maintenant, on va pouvoir en discuter puisque nous avons les deux metteuses en scène à portée de main, à portée de griffe. Alors les filles déjà, donc Pauline et Mélissa, est-ce que vous voulez bien commencer d'abord par nous présenter la troupe et disons l'ensemble des personnes qui ont travaillé sur la pièce, y compris les petites mains qui saluaient à la fin ?
Déjà, on ne peut pas vraiment parler de troupe pour l'instant, parce qu'en fait, on a commencé à faire... donc l'année dernière, on a fait une mise en scène à l'ENS aussi, donc Lorenzacci au compost dramatique. C'est donc notre deuxième mise en scène en commun avec Mélissa. Donc nous, on va dire qu'on est le petit noyau dur. Après, il y a le noyau dur un peu plus large avec notre équipe technique, qui était la même l'année dernière que... Enfin, c'est un petit peu élargi, mais il y avait le même noyau donc de régisseurs et créateurs vidéo, son et lumière. Et on a fait appel aussi à deux cadreurs. Et après, il y a les acteurs, qui n'étaient pas les mêmes que ceux de Lorenzaccio, que nous avons choisis, qui nous ont choisis aussi. Ces acteurs viennent d'horizons assez différents. Il y a des élèves de l'ENS, il y a un élève qui est sorti du conservatoire l'an dernier, un jeune homme qui est passé par l'ENS et qui aujourd'hui fait plein de choses différentes. Enfin voilà, donc c'est des parcours assez atypiques, des expériences de jeu aussi et de théâtre assez différentes, des niveaux, même si ce mot est absolument laid pour parler de ça, mais en tout cas des approches de jeu avec des années d'expérience, pas forcément le même nombre d'années d'expérience de jeu. Voilà, c'est notre équipe. Équipe, c'est plutôt un mot qu'on préfère.
Donc vous étiez le petit noyau dur, les deux metteuses en scène pour un spectacle, je cite, renommé, retraduit, recousu, remonté, rhabillé, rejoué. La pièce originale, c'est une pièce de Marlowe. Quel travail vous avez fait sur le texte original et à quel point est-ce que, parce que je le confesse, ne pas l'avoir lu par exemple, à quel point est-ce que vous avez retravaillé ce texte, à quel point est-ce que vous l'avez fait vôtre et comment ?
Après avoir fait Lorenzaccio, qui était donc un texte immense qu'on a troué pour pouvoir insérer des choses, des textes, des matériaux textuels différents à nous. On s'est inséré dans le texte, on a forcé ses ouvertures parce que le texte était assez compact, donc on l'a complètement composté, hein, d'où de notre sous-titre compose dramatique. Et on cherchait un texte qui aurait pu nous permettre de faire le même travail. On a donc des textes très très larges qui soient assez connus du grand public pour pouvoir faire ce travail sans être taxé d'opacité ou d'obscurité. Et en fait, il se trouve qu'on n'a pas du tout fait ça. On est allé à sens inverse, puisqu'on a choisi un texte qui était pas très connu mais qui était troué d'origine, et donc j'ai fait lire à Mélissa le Massacre à Paris dans la traduction de Pascal Collin,
qui est en fait une traduction qui était extrêmement sèche et lacunaire par moments, mais comme peut l'être le texte de Marlowe en fait, parce que ce texte là nous est parvenu pas entier, c'est-à-dire qu'il manque plein de pans et de scènes qu'on pourrait attendre, par exemple toutes les scènes de conspiration etc. qu'on pourrait attendre dans ce genre de texte. Marlowe du coup est un auteur de la même période que Shakespeare à peu près pour un peu situer les choses, et du coup, toutes ces scènes-là, qui seraient attendues, ne nous sont pas arrivées, en fait, historiquement. Donc nous, on s'est retrouvés avec un texte qui est finalement un assemblage de petits bouts, avec parfois des liens logiques, parfois pas, et parfois des grandes, grandes sautes, des sautes logiques, en fait, vraiment. Et quand Pauline m'a proposé de lire ce texte-là, dans cette traduction de Pascal Collin, qui était extrêmement courte, extrêmement rêche, en fait, il s'est avéré que nous qui essayions de faire des trous dans des textes pour mettre ce qu'on avait à y mettre dedans, ce qui nous agitait, ce qui nous interrogeait, etc., bah, le texte, en fait, se prêtait déjà à ça, puisqu'il était déjà troué, quoi. C'était la dentelle de Calais, ce texte. Et donc nous, notre démarche, ça a été vraiment de pas nécessairement de reconstruire des parties qui étaient inexistantes. Je parlais des scènes de conspiration qui n'existent pas. On n'a pas réécrit des scènes qui nous auraient paru manquantes sur le plan de la dramaturgie globale du spectacle, mais plutôt on a choisi d'utiliser ces espaces pour mettre des choses qui nous faisaient réfléchir, nous agitaient, quoi, nous faisaient bouger. Et voilà, donc au final, pour répondre à ta question, du coup Marie sur la question de la réécriture. Il y a une partie de la réécriture qui passe par la retraduction, dont Pauline pourra parler parce que c'est Pauline qui a retraduit le texte original. Et il y a une partie d'écriture vraiment personnelle, originale. Pour le dire simplement, en fait, on a gardé quasiment la totalité du texte original. On n'a pas recomposé des scènes qui existaient déjà dans le texte original, qui était un peu la différence par rapport au spectacle de l'an dernier où on avait recomposé pas mal de scènes à partir de scènes qui existaient déjà. Et les scènes originales de Mucem n'apparaissaient pas là. Quasiment toutes les scènes de Marlowe apparaissent en fait, à l'exception, je crois, d'une qui est un petit peu difficile à mettre en œuvre.
Un intermède farcesque basé sur le sang en fait. Et comme notre parti pris de mise en scène reposait entre autres sur l'absence de sang dans la pièce, c'est pas qu'on s'est dit là il y a du sang donc on coupe, c'est plutôt qu'on s'est dit est-ce vraiment le meilleur endroit pour faire apparaître pour la première fois et la seule fois du sang. Et comme l'intermède est vraiment farcesque et inutile mais voulu, on a pris la décision de l'enlever. Et sinon, on a juste compacté un tout petit peu certaines scènes parce que, par exemple, les textes de Navarre sont devenus des monologues, mais qui sont quand même adressés. Et normalement, il y a des gens qui nourrissent ces paroles et en l'encourageant, etc. C'est pas parce qu'on n'avait pas assez d'acteurs ou je ne sais quoi. C'était pas par dépit ou par défaut qu'on a fait ce genre de choix textuels. On les a fait assez tard. Et on les a fait parce que ça découlait de parti pris de mise en scène. Par exemple, on trouvait ça assez beau. On trouvait ça intéressant que Navarre soit tout seul comme protestant et entouré de catholiques tout le temps et qu'il n'y ait que lui qui soit un protestant vivant et que le seul autre protestant qu'on voit c'est l'homme qui se fait tuer dans la forêt et qui du coup passe plus de temps à être mort que vivant.
Ou l'amiral de Coligny mais qu'on voit uniquement en vidéo et qui est symbolisé par le premier manteau qui tombe en fait au tout début du massacre quoi. Mais c'est vrai que c'est les deux seuls protestants ouais. À part Navarre qu'on peut voir et c'est vrai que c'était un choix délibéré.
Bon, je vais peut-être revenir un tout petit peu sur la traduction. Du coup j'ai repris le texte original de Marlowe. Je me suis nourrie de deux traductions. Avec Mélissa, on avait lu plusieurs fois deux traductions. Celle de Pascal Collin, dont on vous a parlé au Solitaire intempestif, et celle de Jean Vautier. Donc dans les éditions du TNP, enfin de la NRF pour le TNP, en fait pour la mise en scène de Patrice Chéreau en 72. Et deux traductions complètement, des approches très très différentes. Une approche très sèche, très rêche, très lacunaire comme l'a dit Mélissa, et une approche un peu plus fleurie, un peu plus chargée, où justement on s'apercevait qu'il y avait une tentative de vouloir combler certains manques, qui parfois étaient un peu lyriques, et qui nous plaisaient pas forcément toujours, mais qui était quand même assez intéressante à étudier, dans l'extrême inverse. Et du coup, entre ces deux traductions et avec le texte original, j'ai fait mon chemin un peu de traduction, toujours en soumettant régulièrement mes propositions à Mélissa pour qu'on travaille toutes les deux en accord. Et après, le texte, une fois qu'il a été traduit dans son intégralité, il a bougé un petit peu avec justement ses parties prises de mise en scène. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on a coupées, tout simplement parce qu'on a décidé de travailler avec un texte qui du coup est malléable, toujours dans l'idée de respecter quand même bien sûr le texte et son énergie et ce qu'il essaye de traduire, de transcrire. Mais parfois, quand un acteur a un mot qu'il n'arrive pas forcément à mettre en bouche, un mot qu'il gêne ou quelque chose sur lequel il met pas une image, par exemple pour Guignotte, on en parlait tout à l'heure, un mot qui était dans le texte original et qu'on a enlevé parce que ça ne disait rien à personne, sans devoir sinon on aurait dû justement fournir des explications etc, ce qu'on n'avait pas envie de faire. Du coup en fonction de ça, on s'est adapté aussi, on a adapté le texte au plateau et sans se soumettre au plateau, mais en prenant en compte tout simplement les exigences de certaines choses, nos partis pris, les desiderata des acteurs, tout ça.
Et en plus de ça il y a quelque chose, je sais pas si ça ressort quand on voit le spectacle, mais il y a aussi des parties du spectacle qui sont entièrement improvisées en fait et qui se renouvellent un peu tous les soirs et qui bougent un peu tous les soirs, y compris des parties de texte qui sont certes minimes par rapport à l'économie globale peut-être 2/10 du spectacle, mais il y a une partie de moments textuels où on a choisi plutôt d'avoir un canevas, enfin de donner aux acteurs un canevas, que ce soit un canevas à partir du texte de Marlowe ou à partir de ce que nous on voulait faire ou simplement à partir des propositions qu'ils ont fait en impro en fait. Et on a conservé on voulait conserver cette dynamique d'improvisation parce que ce que disait Pauline et qui est à mon sens très important, c'est que ce qu'on souhaitait respecter dans le texte de Marlowe, c'était avant tout son énergie en fait, et plus que sa lettre vraiment à proprement parler. Évidemment qu'on peut pas faire n'importe quoi sous prétexte qu'on veut en respecter ou en restituer l'énergie, mais cette idée de travailler aussi avec des passages textuels improvisés tous les soirs nous paraissait rentrer dans cette espèce de volonté qu'on avait de respecter la dynamique quoi et le mouvement du texte.
Est-ce que, par exemple, le début où ils apportaient les plats autour de la table, c'était pas scripté, c'était improvisé ?
Alors, il y a une partie qui est scriptée, en fait. Enfin, à partir du moment où Catherine de Médicis commence à dire « telle personne mettait là-là, telle personne mettait là-là », ça, c'est écrit. Et en fait, justement, ça, c'est devenu un canevas autour duquel, du coup, Juliane, qui joue Catherine, a rajouté tout un tas de choses. Ces histoires de « je veux 12 blocs de foie gras », c'est effectivement pas écrit.
Ça,
quoi.
C'est arrivé le premier soir.
C'est de l'impro total.
Ça, et Charles aussi, donc le roi, qui, en fait, nous, donc, pour ceux qui n'ont pas vu la pièce ou pour ceux qui l'ont vu mais ne s'en souviennent pas, pour ceux qui s'en souviennent mais voudraient me réentendre le dire, on passait aussi, vous êtes des allers-retours sur scène parce qu'on voulait créer un mouvement de dynamique générale de préparation de mariage, créer cette espèce d'émulation.
Ça se sentait très bien.
Et en fait, donc Mélissa et moi, on faisait toujours le même chemin avec les mêmes objets parce que de toute façon, enfin, pour en fait aussi implanter dans l'esprit du spectateur qu'il allait nous voir à des moments et qu'on n'était pas des actrices, mais qu'on allait être une présence technique un peu de base au plateau. Et du coup, au fur et à mesure des soirs, Charles prenait de plus en plus de liberté avec nos passages. Mmh. Et le dernier soir, je me suis fait engueuler parce qu'il m'a dit « Mais vous trouvez pas la cuisine ? Mais vous êtes complètement conne, ma pauvre fille !» Et du coup, j'étais pas du tout préparée à ce qu'il me parle et à ce qu'il me prenne en compte comme personnage. Du coup, je lui ai dit « Je suis désolée, j'ai pas compris où c'était. » Il me dit « Au fond du couloir, et vous allez poser cette bassine tout de suite. » Et après, quand je suis réapparue, parce que je faisais toujours le même trajet, il m'a dit « Écoutez, je veux plus vous parler, je veux plus vous voir, sortez hors de ma vue. » Donc voilà, c'est de l'ordre de l'improvisation.
C'est vraiment effectivement un bon exemple de choses où Pauline a ramené une scène écrite qui arrivait avec cette idée de préparation et où en fait les impros qu'on a fait nous dans le travail préparatoire autour de ces scènes-là, bah, on a souhaité nous garder cette dynamique-là. Enfin, je me trompe peut-être, mais je pense qu'il n'y a que il y a que ça de vrai, dans le sens où pour vraiment sentir cette dynamique de préparation, il faut qu'il y ait une part de choses improvisées et de choses pas écrites, parce que sinon ça devient tout de suite dès le début très figé, et c'était quelque chose qu'on souhaitait vraiment éviter au maximum. Donc effectivement, si ça se ressent, tant mieux.
Alors, je voudrais revenir sur un personnage qui a été mon personnage préféré, ouais, quand même. Guise.
Ça. Oula. Mais tous les suffrages de la gente féminine vont au duc de Guise. Hein. C'est assez étonnant.
Et pas mal. Et aussi à Charles.
Moi, j'ai des et aussi à Charles. Avoué,
c'est vrai. Alors, voilà. En plus, Charles, c'est vrai que comme acteur, j'avais déjà vu jouer dans L'Homme qui rit.
Oui, du coup. Ouais.
Voilà, il était déjà merveilleux dans L'Homme qui rit. Alors, c'est vrai que... Quand même. Alors Guise, qui est quand même très intéressant du point de vue aussi de tout ce que porte le personnage en termes de fanatisme, d'intolérance religieuse, etc. Ça aussi, à quel point est-ce que c'est dans le texte original ? À quel point est-ce que ça vient de vous ?
Disons qu'il y a le texte de Marlowe. Enfin, il y a l'histoire, comme tu le disais au tout début de l'émission. Il y a l'histoire, il y a Marlowe, il y a nous. On se met tout en bas, hein, bien sûr. Mais c'est juste que du coup, il y a des degrés d'écart en fait à chaque fois. Et du coup, le Guise de Marlowe, il a moins une intolérance religieuse. Et là, il se trouve que chez Marlowe, c'est une intolérance plutôt sociale, presque une intolérance de classe. En fait.
Quoi ? Mais Marlowe, mais voyons. Mais Marlowe très moderne. Respect d'histoire de France, voyons.
Marlowe très moderne. Très moderne, puisque en fait Guise, je sais pas si vous l'avez remarqué dans la pièce, dit tout le temps rien que des pecnos, tous ces hommes ce ne sont que des pecnos, moi je suis un duc. Et en fait, il a à cœur de se démarquer énormément de tous les autres parce que enfin nous on l'a travaillé comme ça parce que d'une part, il n'est pas dans la famille royale vraiment le noyau de la famille royale. Se démarquer des gens et les traiter de pecnos et les rabaisser, ça lui permet de s'accrocher à la famille royale, à être plus proche de la famille royale et à se sentir appartenir en fait à cette famille royale. Et donc, ça nous intéressait peut-être un peu plus parce que Marlowe déjà nous pointait dans cette direction, cette espèce d'intolérance vis-à-vis des autres, ce mépris en fait. Et à un moment donné, dans une didascalie d'un texte de Mélissa, le passage où il est en train de parler à l'étudiant, donc la veste accrochée contre le mur, il le méprise et parce qu'il n'a pas d'argent. Et en fait, Mélissa avait écrit « Mépris de Guise » alors que lui-même vit de subventions. C'est une didascalie que j'adore. Et il méprise les pecnos, donc il dit souvent ce mot pecno. Et du coup, c'est quelque chose qui nous intéressait assez, c'est-à-dire où se situe le mépris de classe et comment on peut mépriser un groupe de gens pour se rattacher à un autre groupe de gens.
Et c'est vrai qu'il était, enfin, dans la pièce de Marlowe, il est dans une position assez compliquée parce qu'effectivement, il passe sa vie à traiter les autres, les gens qui l'entourent, de pecno. Et en même temps, quand il se retrouve face à cet étudiant, donc Ramé, que nous on a choisi de transformer en scène, en monologue en fait, parce que finalement, la version dialoguée de Marlowe apporte, enfin, oula, que les anglicistes me pardonnent, la version dialoguée de. Voilà, ça va, il est mort. Bon, bah, la version de Marlowe n'apportait pas non plus. C'était une scène qui ressemblait à toutes les scènes de Massacre. En fait, de cette pièce, de Massacre à Paris, à savoir je vais te tuer, non, ne me tue pas, si, parce que t'es un pecno, haha, putsch, je te tue, terminé. Bon, donc du coup, il y avait un peu plus de discours autour de ça, mais nous, on a choisi de restituer ce discours-là sous forme de monologue. Et en fait, cette position-là, elle est particulière parce qu'en fait, ce qu'il reproche à cet étudiant, c'est d'être un intello. C'était ce personnage un peu étrange qui, à la fois, reproche aux gens d'être des pecnos et qui est un peu lui-même un beauf. Enfin, pour si on veut tirer les choses vers un modernisme qui n'est pas forcément du meilleur goût, mais c'est un personnage qui a cette espèce de dualité-là, de à la fois, c'est un personnage qui est très beau et qui est très éclatant et qui est justement quelque chose de très noble dans un sens un peu compassé, mais de très haut, on va dire, et en même temps qui parfois est d'un hyper bas de plafond. Mmh. Et c'est quelque chose parce que du coup Pauline parlait de cette question de l'intolérance sociale, on va dire. Historiquement, on s'attendrait à retrouver l'intolérance religieuse. En fait, chez Marlowe, je pense pas me tromper en disant qu'il est complètement athée. En fait, dans son monologue, ça c'est quelque chose que nous on n'a pas rajouté. Quand il dit religion, j'ai honte de penser que la terre ne puisse être façonnée qu'à partir de ce mot qui n'est finalement qu'un tout petit son, religion. Et en fait, c'est vraiment quelque chose pour lequel il n'a aucune considération. Et quelque part, chez Marlowe, c'est le cas pour Catherine aussi. Aussi étonnant que ça puisse paraître.
Ils sont politiques avant d'être religieux.
Ouais. ils sont dans des relations sociales et politiques avant d'être dans des relations de religion, en fait. Ce qui est quelque chose qui nous a beaucoup frappé, parce que la Saint-Barthélemy, je pense que pour tout le monde, c'est avant tout une histoire religieuse, et puis après se greffent quelques petites considérations politiques qu'on connaît assez peu si on n'est pas historien. Et alors que chez Marlowe, c'est exactement le contraire. La partie religieuse n'a pas d'intérêt, quoi.
Pour la minute historique, je pense que aussi l'athéisme de Marlowe a dû quand même assez jouer. Oui. Enfin, je pense que le fait qu'il était condamné comme athée, qu'il était un athée notoire et il se vantait aussi de son athéisme, ça a fait aussi qu'il s'intéressait beaucoup plus à l'aspect politique et, alors attention, anachronisme de fou, médiatique aussi de cet événement, que de son aspect religieux. Je pense que ça lui parlait davantage. Et je me permets juste de terminer sur Guise, parce que c'est une chose qui nous avait assez parlé. On voit très bien le trajet qu'il fait dans la pièce de c'est l'instigateur, l'organisateur, le planificateur de la Saint-Barthélemy, et à la fin il meurt parce qu'il était cocu et que sa femme a couché avec un autre, et du coup il va se faire bêtement tuer comme un con. En fait, il dévie complètement des préoccupations politiques à quelque chose de très très trivial, de complètement prosaïque, et du coup il s'égare complètement dans la pièce, ce qui est assez étonnant.
Alors, est-ce que les baskets fluo étaient empoisonnées? Parce que je ne comprends pas exactement comment meurt la belle-mère.
La vieille reine, ouais, la vieille reine de Navarre. Alors ça, c'est quelque chose dans le texte. Vous vous en doutez, on l'a changé. Dans le texte original de Marlowe, en fait, on lui offre, enfin du coup, c'est Guise, de même manière, qui lui fait offrir des gants empoisonnés, en fait. Mais c'est le parfum de ces gants qui la font mourir. C'est une scène que je pense Pauline comme moi, on aimait vraiment beaucoup, parce que du coup, elle ouvre cette boîte et elle respire. Elle dit, ça sent un petit peu fort, et petit à petit elle se sent partir, etc. Oh. Sauf que dynamiquement ça ne passait pas du tout, c'était pas du tout c'était très convenu, très attendu, et voilà, visuellement c'était très limité, et comme nous on souhaitait faire cette grosse scène de mariage, faut éclatante. Être honnête, très éclatante et bordélique et foisonnante
et disco
et pas mal dance floor, du coup c'est visuellement ça fonctionnait pas, en fait. Et donc encore une fois, on a fait plusieurs improvisations, et les improvisations qu'on a fait avec les comédiens, on leur disait, prenez un objet et peu importe quel objet, c'est cet objet qui va tuer la vieille reine. Et pour travailler sur plutôt comment est-ce qu'on met cet objet-là en valeur, peu importe l'objet, pour montrer que c'est par ce biais-là qu'elle va mourir.
Peu importe la crédibilité du processus de mort, c'est le procédé qui nous intéresse, c'est-à-dire à partir du moment où un objet a été pointé comme létal, il peut tuer la personne d'une manière ou d'une autre de toute façon.
Ouais.
À partir du moment où on l'a pointé comme étant dangereux.
Donc nous, on avait travaillé ça, et effectivement, ça nous semblait fonctionner. Par contre, en termes de lisibilité, et on aimait beaucoup cette idée qu'elle mette des chaussures et que elle se retrouve à danser, alors qu'il y a une chose dont on n'a pas parlé, je fais une petite incise, et qui nous a beaucoup fasciné, et qui est la raison pour laquelle cette scène de début est une grande scène de danse et de fête. En lisant des ouvrages sur la Saint-Barthélemy, on s'est rendu compte que les protestants, en théorie, ne dansent pas. Ils ne dansent pas.
Ils ne font pas la fête.
Ils ne font pas la fête, les protestants. Ils s'habillent en noir, mal. Et du coup, tous les catholiques au mariage les regardent de travers en disant qu'ils n'ont même pas pu s'habiller bien. En plus, ils ne dansent pas, ils ne font pas la fête. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Et nous, c'est quelque chose qui nous agitait beaucoup, cette idée de gens qui, pour des raisons religieuses, ne font pas la fête. Enfin,
et cette idée qu'on tue des gens parce qu'ils ne savent pas faire la fête. En énorme raccourci, moi ça me fascinait.
C'était quelque chose qui nous intéressait vachement. Et donc, du coup, pour en revenir à la question de pourquoi les baskets fluo spécifiquement, en fait, avec Pauline, bon, comme on voulait vraiment donner cette idée qu'elle mourait par la danse, quoi, on avait vraiment travaillé ces histoires-là avec l'impro, et ça marchait pour nous. Ça marchait vraiment pour nous. On voyait bien qu'elle mourait à cause des baskets, mais en fait, pour le public, c'est vrai que ça aurait été un peu obscur, en fait. Donc, on s'est demandé à la façon dont on pourrait clarifier ça. Et la première suggestion de Pauline, ça a été de proposer des baskets qui clignotent comme les baskets pour enfants. Sauf qu'en trouver en 39-40, c'était pas possible. Et donc, on s'est retrouvé à chercher sur Internet si ça existait, des chaussures qui clignotent en 39-40. Et la réponse est non, d'ailleurs, si vous voulez savoir. Mais par contre, on est tombé sur ces lacets fluo qui étaient jaunes, en plus, comme la police de l'affiche. Donc, on était assez ravis. Donc, on les a commandés. Et quand ils sont arrivés, on a eu la confirmation que voilà, ça allait bien donner au public le sens du fait qu'elle mourait par ses baskets.
Voilà. Juste que c'est typiquement le genre de choses pour lesquelles c'est amusant et intéressant d'être deux, puisque c'est typiquement le genre d'idée où il y en a une qui dit « Et si on faisait ça ?» et qu'en fait ça paraît un peu fou, et on se dit « Non, on va quand même pas faire ça !» Et en fait, il faut être deux pour basculer dans ce genre de petite folie.
Pour pas être trop sage.
Autre chose qui m'a laissé un peu perplexe, le personnage de Margot, on l'a oublié, elle a disparu.
Donc c'est Marlowe qui a fait disparaître Margot, parce que en fait, elle ne dit que quelques petites répliques dans la pièce, des répliques qu'on a jugées et qu'on a trouvées qui s'imposaient à nos yeux avec Mélissa d'une platitude assez navrante, mais voulue en fait, une platitude voulue. C'était vraiment, déjà Marlowe la traitait comme une image visuelle, un personnage inutile par rapport à la vision magnifique et flamboyante qu'il donne personne de la femme, ce qui est un peu bête, avec Catherine. Là, Margot, c'est vraiment un personnage en carton, quoi. Du coup, on l'a voulu la traiter comme ça aussi, comme une image, vraiment une apparition dans le cortège du mariage, la première vision du mariage. Et ensuite, elle disparaît parce que chez Marlowe, elle disparaît et qu'on n'a plus aucune nouvelle d'elle pendant tout le massacre. Donc nous, on l'a même moins fait disparaître que Marlowe, puisqu'on a remis une petite vidéo d'elle pendant le massacre, de ce qu'elle est en train de faire. Et en fait, c'est Charles qui la protège des bruits du massacre en mettant ses mains sur ses oreilles. En fait, elle n'est qu'un outil dans le processus de concorde entre protestants et catholiques. Et ensuite, quand ce processus se délite, elle disparaît.
On parlait du massacre à l'instant. J'ai trouvé, alors Caroline, arrête-moi si je raconte n'importe quoi. Il me semble quand même qu'une des plus belles scènes, une des plus belles réussites en termes de mise en scène vraiment dans la pièce, c'était cette scène du massacre où on n'a pas affaire à des corps, mais à des vêtements qui représentent les protestants, avec en même temps donc ce massacre généralisé. Tout d'un coup, le plateau entier est couvert de vêtements et avec cet éclairage, le projecteur qui ballotte et qui éclaire ça de manière un peu incertaine. Moi personnellement, ça m'a fait penser à cette ampoule qui est juste dans la partie haute du tableau du Guernica de Picasso, par exemple. L'espèce de lumière
très
comme
beau.
Ça.
Merci d'avoir fait le lien. Enfin, on l'a pas fait nous, mais merci beaucoup, c'est très beau.
Alors, je voulais savoir comment vous est venue cette très bonne idée de mise en scène.
C'est encore une idée qui est venue du binôme qu'on fait avec Pauline, puisque c'est Pauline qui a ramené principalement l'idée des vêtements, et c'est plutôt moi qui ai ramené l'idée du traitement lumineux de la scène.
Les vêtements manquent, disons clairement et franchement, qu'on s'inscrit dans une filiation esthétique d'un choc esthétique que j'ai eu en allant au Grand Palais, une exposition de Christian Boltanski, où il avait fait un énorme tas de vêtements de plusieurs mètres de hauteur, que surplombait une espèce de grosse pince géante qui, à chaque fois, venait prendre des vêtements pour ensuite les relâcher. Et ce qui, bien sûr, sans être didactique, faisait remuer beaucoup de choses chez la personne qui venait voir cette installation. Donc voilà, sur des images qu'on peut avoir en tête de la Shoah, des empilements de vêtements, des empilements de lunettes, de chaussures, où sont passés les corps. Et c'est quelque chose d'assez pudique et en même temps, qu'est-ce qui peut plus choquer que l'absence du mort et ce qui reste de lui. Donc ça m'avait beaucoup marqué. Et du coup, j'ai montré ces images à Mélissa, qui a également été très frappée par cette installation et par ces échos que pouvaient être faits. Et on a désiré s'inscrire dans cette filiation parce que, bon, déjà pour sa beauté esthétique et aussi parce que ça avait un écho historique avec la Saint-Barthélemy, qui est, on l'a appris au cours de nos lectures, le premier massacre où les victimes ont été déshabillés post-mortem, et ce sans motif particulier autre que la dégradation symbolique, puisqu'on ne les a pas violentés, on n'a pas volé leurs vêtements, puisque comme on l'a dit, les protestants étaient très austères et n'avaient pas des vêtements enviables, on va dire. D'où la scène du déshabillage du huguenot dans la forêt, qui explique rétrospectivement notre parti pris esthétique, qui du coup n'est pas seulement esthétique mais également historique, symbolique, enfin voilà, de plusieurs approches. Et du coup, le spectateur peut à ce moment-là comprendre que effectivement ce déshabillage explique et rétrospectivement ce qui a pu se passer avec tous les vêtements, avec tous les corps des protestants, et fait le lien entre tous ces vêtements et tous les gens qu'il a fallu déshabiller.
Pour la question de la lumière, en fait, Pauline avait déjà ramené l'esthétique, on va dire, des vêtements. Et parallèlement à ça, sur la scène de massacre, on avait des impératifs techniques un petit peu particuliers, parce qu'en fait, chez Marlowe, du massacre, il n'y en a pas vraiment, en fait. C'est-à-dire qu'il y a pas me tromper, 4 petites scènes, très courtes scènes en fait, qui se résument vraiment à des échanges du type « Tiens, voilà un protestant, non, je t'en prie, ne me tue pas, laisse-moi prier, eh bien, prie plutôt avec ça, et c'est tout. » Enfin, qui fait très film d'action, voilà, et il y en a 3-4 comme ça qui se succèdent, et c'est tout ce qu'on a pour le massacre. Donc on savait comment on voulait les symboliser, c'est-à-dire avec les vêtements, mais on savait pas comment est-ce qu'on allait passer d'un plateau où il n'y a pas de vêtements et où tout va bien, à un plateau avec des vêtements et où c'est le bordel. Mon père étant régisseur, il avait déjà fabriqué des systèmes de projecteurs qui tombent, de lâchers de projecteurs, et j'avais trouvé ça assez frappant, et d'autant plus frappant que ça opérait sur le spectateur un saisissement physique en fait réel, et c'était quelque chose qui moi m'intéressait assez de reproduire en fait dans la séquence du massacre. Initialement, il y avait aussi une sonnerie, on s'était posé la question d'une sonnerie de type sonnerie d'alerte incendie ou de tir de DCA, des choses comme ça. Finalement, on est resté uniquement sur la lumière.
Ce que je trouvais très beau dans ton idée de lâcher de projecteur, c'est aussi que c'est visuellement la cloche qui sonne en fait, parce qu'il y a une cloche juste avant. Après, la cloche s'arrête et pour laisser place à ce projecteur qui se balance. Donc ça crée un raccord entre le son et
Ouais, parce qu'en théorie, il est censé y avoir une cloche qui sonne pendant tout le massacre, et ça aurait été un petit peu long. non gay pour le spectateur. Déjà, on était content que ça se soit réalisé parce que finalement, techniquement, c'était quand même pas gagné, on va dire. Mais ça s'est fait, donc on en était très fiers. Et c'est donc du coup, ça nous permettait de traiter ce massacre comme ce qu'il est en fait dans la pièce de Marlowe, à savoir une transition quoi. On passe d'un première étape politique vers un deuxième étape politique par ce massacre. Mais finalement, le massacre est pas le cœur ou le plus important en termes de volume ou etc. de la pièce de Marlowe. Donc du coup,
c'était surprenant les spectateurs quand le titre est massacre justement. Enfin, certains spectateurs avec qui on a pu parler, quoi, de se dire, en fait, ça s'appelle massacre, mais le massacre dure très peu de temps, et en fait, c'est que de la politique, nous ont dit certains.
Et voilà, et donc, du coup, nous, ça nous permettait de mettre en valeur ça, et de changer aussi, enfin, d'opérer quelques petits changements de plateau, parce qu'il y a des choses qu'il fallait qu'on installe, le plan incliné devait être installé, etc. Donc, ça nous permettait d'avoir une micro-séquence qui nous permet de détruire un petit peu la scénographie qu'on avait juste avant, et de la transformer, ce qui fait que dès que la lumière va revenir, pouf, on a autre chose, mais on n'a pas eu un noir avec une musique d'attente pendant qu'on changeait le plateau, quoi, si je puis dire. Donc c'est vrai que c'est une image qui est née des choses que Pauline et que moi on a ramenées et qui se sont
imbriquées.
C'est vrai que du coup ça rendait très bien la violence de la chose, en particulier voilà, l'étudiant ramé quand vous l'avez remplacé par une veste au lieu de prendre un acteur, et quand il se fait dépouiller, c'est quand même une scène d'une extrême violence tout en n'étant pas sanglante en même temps, ce que j'apprécie beaucoup.
Et, parce que Marie n'aime pas le sang.
Voilà. En même temps, une autre scène quand même qui était extrêmement violente, celle du protestant qui se fait déshabiller dans la forêt. Je pense, Caroline, que tu es d'accord avec moi là-dessus.
C'est atroce à regarder. Je me tortillais dans mon siège. Non, je ne veux pas regarder. Si, il faut que je regarde. Oh, je ne sais pas.
C'est typiquement typiquement, je ne sais rien. C'est le genre de scène. Enfin, on a appris que c'était le genre de scène qu'il fallait travailler avec beaucoup de confiance. Enfin, ça semble assez logique de la part entre les acteurs et entre eux déjà, et puis entre eux et avec nous. Mm-hmm. Et c'est une scène qui.
Pardon, parce que je rappelle quand même que Pauline et moi venons à la fin de la scène charger le corps de Pierre Damien.
Le corps nu, du coup.
Sur un chariot.
On ne voit rien.
Et oui, ça demande déjà une grande confiance et une confiance, on va dire, absolue, une écoute, mais aussi une confiance technique, c'est-à-dire d'être sûr qu'on va pouvoir le soulever sans lui faire mal, etc. Et du coup, en fait, c'était quelque chose qui nous a finalement un petit peu. Enfin, qui était une scène qui était un peu angoissante pour nous aussi par moments, parce qu'on se disait, allez, on va rentrer sur le plateau, on ne sait pas dans quelle position il est mort ou comment il va être, comment est-ce qu'on va pouvoir le soulever, essayer de faire en sorte que le spectateur soit pas confronté nécessairement à la nudité de Pierre Damien. Du coup, c'était nous aussi, on avait bien la pression avant que ça
et donc c'est une scène qui était originellement beaucoup plus longue parce qu'on a travaillé, donc comme on vous l'a dit tout à l'heure, beaucoup à partir d'improvisation, et en fait à force de travailler aussi une scène dans la confiance justement et dans le respect et de chacun, on en vient à polir façon vert poli la cruauté de la scène, la pression que ça produit sur nous, et en fait finalement de la rendre très familière à nos yeux, et du coup d'atténuer la brutalité de la scène. Et ce qui a fait que quand on a eu des retours en fait extérieurs à la générale, ils nous ont dit que cette scène était assez insoutenable justement parce qu'elle était très 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 longue. Et du coup on l'a réduite pour conserver l'image quand même, donc pas pour faire une concession particulière, mais pour conserver cette image tout en la réduisant parce que pour des questions de rythme en fait du spectacle.
Sachant que cette séquence là, nous, il nous tenait à cœur pas uniquement d'opérer un déshabillage comme disait Pauline tout à l'heure, qui soit un peu le symptôme de tous ces gens qu'on a déshabillés et dont on a juste les vêtements sur le plateau, mais c'était important pour nous en tant que séquence douche écossaise qui est quand même une esthétique qu'on aime bien et quelque chose qu'on aime bien faire, à savoir cette séquence, elle commence par un truc drôle, elle commence par Guise qui débarque dans cette forêt où on lui a dit qu'il y aurait des centaines de protestants et il n'y en a pas. Et il est tout seul. Et il est tout seul avec une lumière très très kitsch et des bruits d'oiseaux, si vous vous souvenez bien, qui font coucou, coucou.
Ça c'est une transformation du texte de Marlowe. Je fais juste une minuscule incise en disant juste que, toujours dans l'idée de que les protestants sont très seuls. Voilà, et donc en fait.
Normalement il y en a deux, trois.
Normalement il y en a quelques-uns, mais en fait il n'y a pas ce décalage énorme en fait. Guise dit je vais aller tuer les protestants dans la forêt, il arrive, il tue des protestants avec son armée en fait. Et donc là, l'idée vraiment de mettre Guise tout seul comme un espèce de fanatique illuminé qui est arrivé dans la forêt en pensant trouver une espèce de camp secret, et en fait il n'y a qu'un seul type qui est réfugié, et à la fois très drôle et en même temps hyper pathétique.
C'est quelque chose, nous en tout cas, ça nous importait de poser la scène comme tiens, ça va être une scène drôle, on va se marrer parce que le type débarque et en fait il n'y a personne, et voilà, et de transformer ça en scène vraiment affreuse, glaçante, en fait. Et voilà, glaçante, et c'était vraiment quelque chose qui nous importait. Ça venait aussi remettre certaines choses, certains blocs à leur place, parce que du coup c'est vrai qu'il y a pas mal de traitements dans la pièce de meurtres, etc., qui sont plutôt drôles. Et donc, du coup, c'était important pour nous aussi de resituer que non, c'est un massacre, c'est pas toujours marrant, et qu'il y a une réalité aussi bizarre que ça puisse paraître quand on fait du théâtre, mais il y a une réalité derrière ces choses-là, ouais. dont on a rigolé précédemment, quoi.
C'est peut-être le seul moment où on sent vraiment la mort. Enfin, on sent vraiment ce qui est en train de se passer au niveau de la mort, parce qu'on la voit beaucoup à l'écran, on voit beaucoup donc les cadavres, on les voit à l'écran, on voit les vêtements. En fait, à chaque fois, on s'est suggéré. Et là, il y a ce truc de la première fois qu'on voit à partir de quand quelqu'un devient un cadavre. On a pas mal réfléchi à ça avec Mélissa, les improvisations avec Pierre Damien.
Ouais, puis c'est quelque chose qui nous intéressait. Et après, j'arrête sur le sujet. J'évoquais tout à l'heure la dynamique des scènes qui est toujours tu es un protestant, non, laisse-moi prier, prie avec ça. En fait, cette scène-là, on a fait le contraire. C'est-à-dire, tu es un protestant, laisse-moi prier. La phrase de justification qui est toujours là chez Marlowe et qui tient à dire tu es un protestant, tu es, enfin voilà, c'est pas bien et je vais te tuer, arrive après qu'il l'ait tué. Ce qui était pour nous aussi un moyen de venir dire quelque chose sur la mécanique du meurtre, en fait, de montrer qu'à un moment donné, ça s'emballe, en fait. Ça devient tellement rapide qu'on en oublie quelles étapes on fait les unes après les autres, et où du coup, ça devient absolument normal de tuer quelqu'un avant de lui adresser une parole. Et du coup, c'était quelque chose qui nous intéressait beaucoup, et on est assez ravis si cette scène est glaçante, même si, voilà, c'est peut-être pas forcément un bon moment à passer pour le spectateur, on est content que ça fonctionne.
Voilà, et pas seulement parce qu'il y avait un nu, mais pas seulement pour les canons de l'esthétique contemporaine. C'était quand même justifié, du coup.
Le fait qu'il ait un physique christique, c'est juste un bonus ou...
En fait, c'est le bonus Pierre Damien.
Oui, il tombe un peu les bras en croix, quand même. Donc...
Ça dépend des soirs, en fait.
Enfin, moi, j'ai vu la dernière.
Ah, d'accord.
Ça dépend vraiment des soirs.
Enfin, il est très mince. Ah, ça,
oui, c'est vrai. En fait,
le corps tout plié, tout posé. Ça fait
en fait, il y a des gens qui nous ont dit qu'il ressemblait à un personnage du Caravage. Je pense que c'est juste le corps de Pierre Damien nous a aussi amené à le choisir en tant que Charles. Et parce qu'on aimait que Charles ait ce corps-là.
Et en tant que Huguenot aussi.
Et en tant que Huguenot aussi. Donc, son corps a été une donnée quand même dans notre choix. Et aussi la manière dont on l'a habillé en tant que Charles. On l'a habillé trop court, exprès, trop petit, etc. Et en fait, c'est vrai que pour le Huguenot, la façon. Enfin, il a quelque chose de très très touchant dans son, comment dire, dans son dénudement. Il a quelque chose de très fragile, et c'est vrai qu'à ce moment là où il est mort, il est en fait dans une nudité du corps et de l'âme qui est assez touchante.
Et je pense qu'il y a aussi un élément qui rentre en ligne de compte, mais peut-être je me trompe, c'est sa souplesse, en fait. Du coup, il est suffisamment souple pour se tenir dans des positions, une fois qu'il est en cadavre, qui sont assez déroutantes, parce que du coup il est tordu, en fait, comme pourrait l'être quelqu'un qui est mort. Par contre, après, c'est vrai que la position les bras en croix, c'est vraiment une donnée, ça dépend de comment
c'est vraiment variable.
D'accord.
Ouais. Dernière scène vraiment que je trouvais graphiquement très belle, la dernière, voilà, la scène du baptême de Navarre qui devient catholique à ce moment-là. Scène un peu curieuse au fond, puisque on pourrait penser que voilà, c'est quand même un événement avec une portée politique importante. Il va devenir roi de France, donc logiquement son baptême devrait se passer dans une grande cathédrale avec beaucoup de monde. Or sur scène, il est tout seul, l'éclairage est très particulier. Qu'est-ce que vous avez à nous dire là-dessus par rapport à ces choix de lumière, ce choix de scène tout simplement ?
Alors en fait, il faut savoir que c'est une scène qui n'existait pas chez Marlowe. Chez Marlowe, la pièce se terminait avec Henri III qui disait à Navarre « Oh non Navarre, tu vas être au roi de France pour, !» Pour simplifier, pas tout à fait, mais c'est une phrase qui nous fait beaucoup rire. Et ça se terminait comme ça, et ça tombait un petit peu à plat. Et en fait, quand on a lu la version traduite par Pauline de la pièce, quand on l'a lu ensemble, moi je me suis un petit peu dit « C'est bizarre, enfin, on change de roi comme on change de chemise dans cette pièce, et là on va pas jusqu'au bout de la logique qui est qu'on va passer à Navarre qui va devenir Henri IV, lui qui pourtant a vu mourir tous ses amis protestants, on va dire, enfin tout son peuple, entre guillemets, enfin tous les gens de sa religion. C'était quelque chose qui moi m'interrogeait vachement, cette idée de, voilà, de remplacement, de recouvrement permanent, voilà. C'était quelque chose qui m'agitait beaucoup, et en fait j'ai proposé à Pauline, je lui ai dit mais moi je pense que ça serait peut-être pas mal de finir avec ce personnage de Navarre qu'on met de force à genoux, qu'on baptise un peu de force. Enfin, on aimait bien garder cette ambiguïté aussi de est-ce que c'est un baptême souhaité ou pas ou quoi, et qui est un peu baptisé de force, et puis qui va se rhabiller, qui va être couronné, et la dernière image de fin juste avant le noir serait un espèce de moment où il va pour reprendre la parole pour un énième discours politique. Proposer ça à Pauline, donc on a laissé ça un peu reposer, et puis parallèlement à ça, un petit peu après, en fait, Pauline est arrivée avec ce morceau de musique de métronomie qui conclut le spectacle là, qui fait des espèces de bourdons un peu étranges. Et en fait, quand Pauline me l'a fait écouter, on s'est dit ok, bon, donc ça c'est la musique de la scène de fin, enfin, du coup, la scène s'est mise à exister. Après, les lumières, ça arrivait un peu plus tard.
Après, oui, disons que les scènes... De toute façon, les scènes sont assez construites en couches successives. Mm-hmm. Enfin, tout se construit un peu en même temps, mais par couches successives.
C'est, quelque part, si je peux faire une incise, c'est... L'an dernier, du coup, le spectacle qu'on avait monté s'appelait donc effectivement Lorenzaccio compose dramatique. Et en fait, même si on a enlevé ce terme-là du titre du spectacle, parce qu'on ne va pas le remettre toujours, ça reste quand même quelque chose qui est en sous-titre. C'est-à-dire qu'avec Pauline, on travaille vraiment par strat.
C'est dans le client.
Ouais, oui, poste. On l'a laissé.
Ah ouais, on laisse
plus discret,
cette chose-là
mais toujours
parce
aussi
que
tenace.
C'est, en fait, c'est notre démarche de travail au final, c'est ça. C'est faire du compost et du compost dramatique, ce qui était à la blague un jeu de mots sur le post dramatique. Voilà. On parlait des gens tout nus tout à l'heure. Et du coup, voilà, blague de bon. Et on accumule en fait les strates, etc. Et ensuite, ce qu'on présente, le mot est pas très beau, mais c'est une sorte de carotte de ce qu'on a accumulé en fait. Et petit à petit, ces strates-là, elles vont voilà, se sédimenter les unes avec les autres. Et donc, ce qu'on présente, ça ressemble toujours à ça. Donc, même encore cette année, on fait encore et toujours du compost.
Donc, oui, pour terminer sur la question des lumières, c'est une création. Parce qu'on a proposé, en fait, à chaque fois avec notre équipe technique, on a une part de demande, d'envie qu'on a. Et on a aussi une part. Enfin, on leur laisse une part de création, de liberté et aussi de s'insérer dans le spectacle avec leurs envies, leurs désirs esthétiques. Et là, pour la création lumière, c'était typiquement un espace de création du régisseur et créateur lumière Quentin Chambaud, qui du coup a créé une lumière pour ce couronnement. Lumière qui est justement traduit à la fois l'isolement de Navarre, qui est tout seul dans une espèce d'espace rectangulaire, très blanc, et qui en même temps, les vêtements donc, en fond de scène sont éclairés contre le mur. À la fois, le mur est éclairé, j'avais jamais pensé, mais que ça fait aussi un peu référence aux fusillades, aux gens alignés contre les murs. Et du coup, les cadavres sont empilés, donc contre le mur, donc il y a ce Navarre tout seul et ses cadavres empilés, et il est entouré complètement de rouge, comme une espèce de vague rouge qui à la fois fait écho à la scène du début du spectacle du cortège de mariage avec audio, vidéo, disco quand le couple de mariés entre, et à la fois au fait qu'il n'y a pas de sang dans ce spectacle et que donc ce rouge est une espèce de point aveugle dans le,
ouais,
dans le spectacle.
Ça permet, cette lumière-là, elle vient aussi entourer les deux vrais cadavres, enfin vrais cadavres,
oui, c'est vrai,
joués par des comédiens, mais quand même, qui restent sur le plateau, qui sont le cadavre du moine qui vient de tuer Henri III et le cadavre d'Henri III. Et c'est aussi la première fois sur le plateau qu'on a des corps qui vont rester, en fait. Ouais. Et du coup, on souhaitait un petit peu
les atténuer,
voilà,
aussi,
atténuer un petit peu ce truc-là. Et du coup, la lumière de Quentin, elle est venue habillée, ça serait pas le bon mot parce que c'est pas
déshabillée. Non, je rigole.
Elle est venue, enfin en tout cas, voilà. Elle est venue ajouter à cette scène justement peut-être son étrangeté, effectivement, où effectivement on peut s'attendre à ce que, comme dans d'autres scènes du spectacle, des gens débarquent en faisant bravo, super, alors que pas du tout quoi.
Ouais. Tout le monde est mort, donc il reste plus.
Il reste plus personne. Non. C'est terrible.
Donc, comme Marie a parlé de sa scène préférée, la scène du baptême, moi, c'est bien sûr les installations vidéo qui m'ont beaucoup marquée, et pas seulement parce que Robin enregistre et que... Non, il ne me coupera pas parce qu'on a eu suffisamment de problèmes aujourd'hui. Donc, à la fois, les jeux entre le visuel des différents écrans, enfin, du coup, les grands écrans, le côté un peu jeu dont on tue des méchants ou des aliens,
FPS,
comme ça,
ouais. FPS, ouais.
Avec l'écran coupé, qui contrastait avec le côté... Enfin, ça... Ça avait une esthétique particulière, ce qui était projeté sur les petites télés, quand on voit Navarre dormir, enfin, on a l'impression qu'il est mort, puis en fait non, il dort. Enfin, un côté, moi, ça rappelait des peintures de peintre flamand, mais je ne sais pas trop pourquoi.
Ah oui, ça fait juste années 60, mais bon, quand on n'est pas historienne, ça paraît.
Moi, je suis très contente que ça te rappelle des peintures flamandes. Je suis ultra contente.
C'est vrai que les mains sur les oreilles de Margot,
ouais, c'est surtout cette séquence-là. Là,
et donc, dans les vidéos, un moment comme ça qui apparaît un peu de nulle part et qui fait un petit moment de. Qu'est-ce qui se passe? Donc Léa, qui fait le reporter de CNN, qui voit des cadavres et qui dit mais pourquoi on les tue? C'est des musulmans? Non, mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi des protestants? Pourquoi est-ce qu'on les tue? Et ça se finit, et tout d'un coup, une espèce d'appel au problème plutôt contemporain par rapport à la Sainte-Barthélemy, et qui casse complètement le rythme. Donc voilà.
Du coup, oh my god, c'est... oh my god. C'est une séquence qui est d'abord écrite sans image, c'est-à-dire que j'ai vraiment écrit le texte. C'est un des deux premiers textes qu'on a écrit au tout début de notre travail sur Massacre, donc le premier
c'était
Bad
la
Boy,
séquence
de séquence
dansée sur cette musique des années 50,
scriptée par Mélissa du coup, et proposée, imaginée par Mélissa, et ce texte là plutôt pas du tout imaginé visuellement, mais plutôt rêche et sec, juste qui était en fait de quelque chose qui est sorti en fait sur une interrogation sur en fait aujourd'hui qui est l'ennemi numéro un, qui sont les ennemis, peut-il vraiment exister un ennemi désigné, et l'anachronisme qu'il pouvait y avoir entre justement le terrorisme aujourd'hui, Russie ou les meurtres de masse aujourd'hui et l'anachronisme des protestants, du coup le protestant n'étant pas considéré aujourd'hui comme l'ennemi numéro un par la puissance numéro un, à savoir les États-Unis. Et en fait ce qui m'intéressait c'était de mixer une esthétique surmédiatique à travers donc justement un format façon BFM TV, CNN, à la fois ça et en même temps une esthétique de film d'horreur façon tournée caméra à l'épaule, façon rec, mixer cette esthétique de image prise sur le vif avec en même temps l'anachronisme du massacre de la Saint-Barthélemy, voir comment les deux pouvaient s'entrechoquer. Et du coup avec ce texte là qui est au final très court sur en fait c'est pas des musulmans, je comprends pas pourquoi on les tue, en fait ça me faisait réfléchir à pourquoi on tue qui que ce soit et pour quel motif. Et après du coup j'ai proposé ce texte qui est en fait assez troué et qui ne dit pas grand chose de manière didactique, qui est comme tu l'as dit qui apparaît comme ça puis qui disparaît quoi. Et Mélissa du coup elle m'a proposé tout un traitement vidéo et toute une séquence vidéo autour de ça, et une séquence qu'on a réalisée du coup dans le parking de l'ENS
et qui était liée effectivement à tous ces films tournés caméra à l'épaule avec cette espèce d'esthétique du film pas prévu. Enfin tu disais rec, je pense que le premier du genre, je parle sous le contrôle de Robin effectivement qui est quelque part dans un coin de cette pièce, mais il y a aussi Projet Blair Witch en fait qui a un petit peu fondé un peu cette esthétique là aussi. Il y avait ça, il y avait la réalité de ce que c'est qu'une prise de vue pas accidentelle mais presque en fait dans les massacres dans la vraie vie, c'est-à-dire le fait qu'aujourd'hui étant équipé de téléphones portables, de smartphones, de tout ce qu'on veut, il nous est possible de filmer des massacres ou des actes violents réels en temps réel. Et à l'époque où tu avais écrit ce texte, on avait déjà pas mal discuté en fait parce que c'était la période où il y avait deux personnes dans les rues de Londres qui étaient sorties armées de machettes et qui avaient dégommé, tué, tranché des gens à la machette en fait. Et il y avait eu des images filmées par des gens qui étaient vraiment à 3 mètres de ces gens-là. Donc on se poser un petit peu la question de se dire qu'est-ce que c'est qu'une image réelle, qu'est-ce que c'est qu'une image mise en scène, etc. Et qu'est-ce que c'est qu'une image volée, qu'est-ce que c'est qu'une image aussi mise en scène pour la télévision, oui, pour l'actualité, etc. Donc du coup,
doublement mise en scène, puisqu'il y a les écrans qui sont sur scène.
Ouais, ça devient... assez méta. C'est très très méta, mais du coup on s'était orienté vers ça. Et puis c'est vrai qu'on avait, il faut être honnête, on avait aussi un petit peu envie que ce moment là vienne être une sorte de respiration what the fuck, si je puis me permettre, dans le spectacle. C'est-à-dire que cet effet là de surgissement absolument pas prévu de cette vidéo dans le spectacle, c'est quelque chose qu'on souhaitait vraiment pour que ça vienne aussi soulager quelque chose du spectacle.
Parce que l'image
et le rouvrir sur autre chose aussi.
L'image ne fonctionne pas si elle n'est pas associée à Charles qui passe l'aspirateur. Parce que en fait il fallait un contrepoint
contrepoint
absurde à cette violence là qui est en train de se déployer. C'est vraiment en fait je pense l'instant what the fuck est quand même un bon titre pour cette scène, parce que dire qu'il s'appelle oh my god et oh my god c'est un peu what the fuck mais en poli. Et en fait non mais c'est vrai, parce que du coup cette scène là c'est d'un coup quelque chose de très très brutal. Les seuls cadavres qu'on voit vraiment c'est des cadavres en vidéo, enfin on les voit sur l'image, donc on se dit ok d'accord, donc des gens sont morts. Et là en même temps il y a Charles IX qui a autorisé le massacre de la Saint-Barthélemy qui fait
ça faisait aussi un petit peu écho à la façon dont on a de consommer de l'information sur les massacres de masse aujourd'hui, à savoir on peut être tout à fait en train de repasser et de voir une vidéo qui montre les massacres en Syrie, il n'y a pas de problème. Et du coup c'était quelque chose auquel on souhaitait, encore une fois pas de manière didactique, mais on souhaitait confronter le spectateur à cette situation là et que des fois effectivement on est chez soi et on se prépare du thé et on entend que 20 000 personnes ont été tuées, enfin c'est cette absurdité là aussi qui...
ça et puis l'idée que Charles du coup est comme quelqu'un d'autre qui est assez bipolaire, et Charles, et que du coup ce qui nous intéressait c'est pas que c'était quelqu'un en souffrance, et comme par exemple dans La Reine Margot de Patrice Chéreau qu'on a bien regardé pour ensuite bien s'en éloigner, même si je respecte beaucoup ce travail là, mais c'est pas notre esthétique, mais dans La Reine Margot Charles est quelqu'un de très souffrant tout le temps, il est très en souffrance et tout ce qu'il fait il le fait en souffrant. Et du coup non, on voulait pas du tout aller dans cette image là on voulait aller dans l'idée de quelqu'un qui est très très joyeux, très très énergique, et puis d'un coup
à côté de la plaque
voilà, et qui d'un coup peut être en fait complètement
très
perdu,
versatile
parce
en fait
oui très versatile, parce que du coup d'un coup on lui explique ce qu'il a fait et du coup il se rend compte et il pleure. Enfin, il pleure pas vraiment, mais voyez, c'est un peu ça. Et du coup, cette image de passer l'aspirateur, c'est le mec qui s'imagine qu'il peut réparer le massacre en passant l'aspi, quoi.
Après, sur la question des autres vidéos, c'est vrai que tout ça fait un petit peu partie de ce contexte médiatique qu'on souhaitait mettre en valeur vraiment dans la pièce. Question que j'ai déjà évoquée d'effacement, de remplacement, d'oubli, en fait, aussi. D'oubli de l'oubli à court terme qu'on peut avoir, même des événements frappants. La pièce de Marlowe aussi allait dans ce sens-là. Par exemple, quand Charles meurt, il est immédiatement remplacé par, par son frère. Et ça se fait dans une réplique. Catherine dit « Oh mon Dieu, il est mort, son âme vient de quitter sa poitrine. Il ne nous reste plus qu'à envoyer des ambassadeurs et ramener en joue son frère pour qu'il soit couronné. » Et c'était cette dynamique-là qu'on voulait mettre en valeur. Et la vidéo nous a beaucoup aidé en fait, à mettre ça en valeur. Donc il y a effectivement des vidéos qui sont très, très médiatiques comme « Oh my God ». Il y a de la vidéo en direct qui vient appuyer tout ce qui est allocution publique, etc., qui peuvent parfois se contredire, les allocutions publiques.
Donc c'était en direct, c'était filmé.
Certaines vidéos,
parce que je me demandais, est-ce que c'est...
Quand les gens font des discours...
Je me demandais s'ils répétaient, parce que du coup, l'œil du spectateur va entre le visage et l'image, et t'es jamais sûr s'ils sont en train de répéter quelque chose.
En plus, il y a quelque chose de décalage.
Exactement. Voilà. Des choses que je préfère au monde, c'est ça, léger décalage entre ce qu'on entend sortir de la bouche du comédien, vraiment... Et le fait que ça ne correspond pas à son articulation à l'image. Mais par contre, c'était vraiment de la vidéo en direct. Exact. Et du coup, c'était quelque chose qui nous importait aussi pour donner tout leur poids à ces allocutions-là, quoi, qui sont des allocutions publiques. Comment dire, elles dépendent beaucoup du regard caméra, de toutes ces choses-là, de toutes ces petites subtilités qu'on ne peut pas voir sur un plateau de théâtre. Nous, ça nous intéressait vraiment de se poser la question de qu'est-ce qui est de l'adresse intime, qu'est-ce qui est de l'adresse publique, comment est-ce que l'adresse intime devient de l'adresse publique à certains moments donnés. Quand Charles demande à Coligny comment tu vas, Coligny, c'est une adresse publique qui est intime, mais qui est aussi une adresse pour rassurer tout le monde. Enfin, ces choses-là nous intéressaient beaucoup, en fait. Et les petites vidéos qui sont dans la télévision, qui ont effectivement une esthétique, très, d'une certaine manière, années 60, pour moi, en tout cas, et je pense que c'est sans doute pareil pour toi, Pauline, mais ces télévisions-là, c'est un espèce d'endroit qui vieillit pas, aussi bizarre que ça puisse paraître. C'est une télévision, ça sera toujours un média. Enfin, une télévision, une vieille télévision cathodique, carrée, ça fera toujours signe vers la télé, et donc les médias. Et donc, nous, ça nous intéressait de mettre des images intimes là-dedans pour essayer de donner un petit peu cette idée de la vie cachée des stars, quoi, la vie cachée des catholiques, des petits moments volés comme ça de ce qui se passe chez les catholiques pendant le massacre, mais qui sont de fait médiatisés.
Et j'ajoute juste, je suis complètement d'accord avec toi sur tout ce que tu dis. C'est aussi que dans une scénographie qui est assez épurée quand même et qui est plus dans l'ordre de la suggestion que de l'ordre de la représentation, ça crée aussi un petit espace, cette télé, à la fois familiale. Donc des fois, quand le passage où Guise et Catherine regardent le reportage sur le couronnement d'Anjou, ça crée tout d'un coup une micro-unité spatiale qui du coup, je sais pas comment dire, mais rassure l'œil aussi, ça crée un petit endroit. Et en même temps, c'est à la fois une télé publique aussi, puisque ce reportage d'Anjou, on peut l'entendre, tout le monde peut l'entendre. Donc en fait, c'est aussi pour montrer justement cette porosité entre quelque chose qui est familial, qui est privé, et qui en même temps du coup est donné à tout le monde. Donc ça va dans le sens de
ce que c'est aussi la télévision qui va permettre au duc de Guise d'apprendre que sa femme le trompe, peut-être.
Donc c'est à la fois complètement privé et complètement public. Enfin, effectivement, il y a ce truc de la vie privée des stars, et du coup, c'est on voit aussi
quelque chose qui nous intéressait vraiment de naviguer entre ce qui est vraiment de l'ordre du média, ce qui est de l'ordre de l'intime, et de voir comment ça se mélangeait. Et c'était aussi présent, aussi bizarre que ça puisse paraître, chez Marlowe. Il y avait des choses un peu en germe chez Marlowe de ça. Enfin, c'est pas quelque chose où on est arrivé, qu'on a plaqué sur ce texte-là. Il y avait dans le texte des choses qui incitaient à se poser la question de qui entend,
qui parle quoi, à qui quel moment,
comment l'information circule, comment l'information du massacre circule, etc. Donc du coup, nous, on s'est encore une fois inséré dans ces petites pistes que nous donnait le texte, et puis on en a fait notre affaire.
Je vais laisser le mot de conclusion à ma seule chroniqueuse du jour, la seule, l'unique, la fidèle, absolue, jusqu'au dernier moment. N'est-ce pas, Caroline? Ça t'a plu ou ça t'a donné des envies de massacre?
Les deux en même temps. Non, je rigole. Mis à part mes délires bipolaires dans mes chroniques, je suis parfaitement saine d'esprit.
Mais oui.
Du coup, effectivement, la scène du déshabillage qui retournait un peu, qui se rendait compte que on s'était bien amusé à lancer des vêtements, à faire semblant de tuer, à faire des « Allez, on y va, allez, on y va, on tue les gens, t'es prêt, ouais, je suis masqué et tout. Oh, t'as une balafre, ouais, ça te donne un air un peu de guerrier et tout. » Et là, ça retournait complètement ce que disait le système de la douche écossaise. C'était drôle, et en même temps, à certains moments, on se disait, mais peut-être qu'il faudrait pas rire, en fait. Il y a des choses qui clochent, là, ça fait des échos contemporains. Mais bon, on restait pris dans l'espèce de fièvre de tuer les gens qui emportent tout le monde jusqu'à ce que Catherine, elle tue tous ses fils. Enfin, à quoi ça sert Je ne sais pas. Mais bon, ça continue jusqu'à ce qu'il y ait Henri de Navarre qui arrive sur le trône. Et c'était très rafraîchissant aussi de voir les codes du théâtre contemporain réutilisés, mais de façon sensée. Donc, un nu qui a du sens, un espace dépouillé qui a du sens, des images sur scène intermédiatiques qui ne sont pas juste là pour dire « Ah, regardez, on fait quelque chose un peu différent », mais vraiment enfin, une réflexion méta. Et aussi le quatrième mur, donc, qui est un peu cassé au début quand on vous voit apporter et enlever des choses, et on se dit « Mais est-ce qu'ils sont en retard ?» Non, c'est bon, ils le font exprès. Et la fin, bien sûr, où on s'amuse beaucoup à applaudir parce que les gens, ils bougent sur l'écran et tout, ils font la roue, ils nous font coucou. C'est vraiment sympa parce que bon, on aime bien applaudir à la fin d'un spectacle, mais au bout d'un moment, on a mal aux mains. Donc, il faut nous motiver. Et là, on était très, très motivés. C'était vraiment un bon moment.
Ouais, merci.
C'est bon.
Merci à toutes les trois. Il est temps de refermer ce dernier en spectateur. Je vous remercie de l'avoir suivi. Il y aura une dernière pièce jouée en Cantor début juin, Crime. Je vous invite à y aller. Moi, j'y serai, même sans radio. Je tiens à remercier tous les invités qui sont passés cette année dans notre exigu studio. Nos chers chroniqueurs pour leurs délicieuses chroniques, Lola, Caroline, Mathilde, Charlotte et Adrien cette année. En scène, parce qu'ils nous ont vraiment proposé, la plupart du temps, mais quand même très souvent, de très beaux spectacles. Robin et Nicolas, pour s'être occupés si souvent de la technique, domaine dans lequel, personnellement, je suis une brêle absolue. Et ma chère acolyte Pauline, qui n'est pas là aujourd'hui et à qui je dédie cette émission. Cet été, surtout n'oubliez pas d'aller au théâtre, à l'opéra ou au ballet. Bref, n'oubliez pas de vivre
en spectateur.